Bonjour, chers auditeurs, auditrices, lycéens, lycéennes qui écoutez Fréquence Mistral. Merci à vous tous du succès de l'émission et n'hésitez surtout pas à partager ces émissions avec vos amis, vos familles, avec tous ceux qui passent le bac cette année. Je le rappelle, c'est une simplification de cours et je vous invite à lire les livres d'histoire et vos cours si vous en avez sur la question. Merci en tout cas à tous pour vos messages de soutien. Le sujet d'aujourd'hui est la gouvernance européenne depuis le Congrès paneuropéen de La Haye en 1948. Ceci s'adresse surtout aux LOS, mais aussi aux S, je le dirai au moment où il faudra pour vous particulièrement écouter. Étudions d'abord les mots du thème. La gouvernance, qu'est-ce que veut dire la gouvernance? En fait, ça veut dire comment est dirigée la politique à l'échelle d'un continent. Européenne, attention, il ne s'agit pas du continent européen. Je le rappelle, l'Union européenne n'est pas l'ensemble des pays européens. Et l'Europe à 27-26 en 2020 n'est pas non plus celle de 1950 où il n'y avait que 6 pays membres. Depuis le congrès de La Haye en 1948, sous-entend une étude chronologique de 1948 jusqu'à nos jours. La problématique pourrait être: comment une organisation supranationale s'est-elle constituée depuis 70 ans sur l'espace européen? Je vous propose donc un plan en trois parties. La première, les étapes de la construction européenne de 1948 à 1974. Il y a ici trois contextes en 1948. Le premier, l'Europe est ruinée par la Deuxième Guerre mondiale. La population vit avec des tickets de rationnement et mange des produits extra-européens, surtout venant des États-Unis d'Amérique. La deuxième, c'est que l'espace européen est un espace de conflit entre les deux blocs soviétiques à l'est, avec Staline, et libéral à l'ouest, avec Truman. En 1900, le troisième est la décolonisation qui remet en question la domination européenne sur le monde. Alors, premièrement, je vais parler de l'idée d'Europe politique. Eh bien, cette idée vient des Lumières au XVIIIe siècle, avec notamment Emmanuel Kant, mais il n'y a pas que lui. En XIXe siècle, cette idée est reprise par Victor Hugo, qui a fait un superbe plaidoyer que je vous invite à lire un jour pour les États-Unis d'Europe. Dans les années 20, certains, comme Louise Weiss par exemple, ont encore manifesté au nom de la paix après l'hécatombe de 14-18. L'idée a germé dans tous les mouvements de résistance entre 1939 et 1945. Cette idée, c'était une union des peuples et des pays. Et cette idée d'union, on la retrouve par exemple dans les mouvements combat en France, dans les mouvements de résistance allemande, notamment les jeunes étudiants de la Rose Blanche. Le congrès de La Haye en 1948 se déroule en plein blocus de Berlin par Staline. Au début du plan Marshall en 1947. Donc c'est un plan, donc, que je rappelle, américain de reconstruction européenne. L'initiative revient à, tenez-vous bien, Winston Churchill. Donc le superbe Premier ministre britannique qui avait résisté seul à Hitler entre 1939 et 1941. Il fait un discours à l'université de Zurich devant les étudiants, qu'on appelle le discours aux étudiants. Donc, où il dit la chose suivante. Alors, je fais la traduction, hein. Il y a un remède à la guerre et à la misère. Il consiste à reconstituer la famille européenne et à établir le cadre de son développement dans la paix, la sécurité et la liberté. Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe. Cette idée, le 5 mai 1949, est constituée à Strasbourg par la première réunion du Conseil de l'Europe. Parmi les participants du Congrès de La Haye ou du Conseil de l'Europe en 1949, il y a trois options politiques de gouvernance, c'est-à-dire trois façons de voir l'Europe et la façon dont elle doit être dirigée. La première, c'est ce qu'on appelle les fédéralistes. Eux, ils souhaitent un gouvernement à l'américaine avec un président élu et un congrès et des États fédérés. La seconde, les confédéralistes, qui souhaitent une mise en commun de certaines politiques, mais que chaque État soit souverain par sa diplomatie et son armée. C'est en définitive ce que nous avons aujourd'hui. Et enfin, les coopératifs, qui sont pour des coopérations à caractère économique et culturel, mais avec des États indépendant et strictement souverain. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, lance le projet concret de construction de l'Europe. Sous l'impulsion de Jean Monnet, de Konrad Adenauer, d'Alcide Gaspiri, de Paul-Henri Spaak, donc est créé en 1951 la CECA, la Communauté européenne de charbon et de l'acier, entre 6 pays, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, mais aussi l'Allemagne. Pourquoi le charbon ? Parce que le charbon, à l'époque, c'est la seule énergie européenne. Nous n'avons pas encore tous ces beaux barrages hydroélectriques que nous avons et nous n'avons pas encore les centrales atomiques, ni même pas les éoliennes ou autres sources d'énergie nouvelles que nous avons aujourd'hui. L'acier, pourquoi ? L'acier sert à la reconstruction. Je rappelle, nos établissements, nos ponts, une partie de nos infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, aéronautiques et compagnie, fonctionnent avec l'acier. Et d'autant plus que l'acier est à la base des moyens de communication, comme par exemple l'automobile. Donc ces 6 pays se mettent ensemble et mettent ensemble ces deux productions. Alors, pourquoi ? C'est une façon de se reconstruire, mais c'est aussi une façon de contrôler le sixième pays, c'est-à-dire l'Allemagne. Je rappelle quand même la situation de l'Allemagne à l'époque. Être allemand à l'époque, pour un Européen, c'est une honte. Ils ont envahi, ils sont coupables de crimes contre l'humanité, personne n'aime véritablement les Allemands. Et les souvenirs sont encore douloureux dans beaucoup trop de régions et beaucoup trop de pays vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, 2 ans après la fondation de la République fédérale d'Allemagne, en 1949, c'est une reconnaissance pour les Allemands d'être reconnus par leurs voisins européens de l'Ouest, je rappelle. Mais c'est aussi, 6 ans après le conflit, une façon pour ces 5 autres pays de contrôler ce qui se passe en Allemagne, et notamment sa production d'acier et de charbon, pour qu'elle ne tombe pas dans une politique de réarmement possible et que craignent encore les pays à l'époque, notamment la France. En 1954, le gouvernement français propose de créer aussi une communauté européenne de défense, c'est-à-dire une armée européenne. Alors l'objectif, bien sûr, il est d'affronter un jour le pacte de Varsovie, vu que nous sommes en pleine guerre froide. Ceci est accepté par les 5 autres pays. Mais le Parlement français rejette en fait ce projet en dernier vote. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a le Parti communiste français qui refuse un réarmement allemand susceptible d'affronter les forces du pacte de Varsovie et donc de son ami l'Union soviétique. Et vous avez une partie de la droite, notamment gaulliste, qui refuse au nom des intérêts de la France dans sa colonie. Et je rappellerai seulement qu'à l'époque, nous sommes à la fin de la guerre d'Indochine et au tout début de la guerre d'Algérie. Donc, ce projet d'armée européenne est avorté par les intérêts supérieurs de la France à l'époque. En 1957, le traité de Rome crée la Communauté économique européenne, toujours avec les mêmes 6 pays fondateurs, je rappelle, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg. Donc, ce traité de Rome est un traité fondamental, parce que plus que le côté politique, c'est-à-dire militaire et diplomatique, est impossible, les Européens se sont dit, les pro-européens se sont dit, maintenant on n'a plus qu'à fabriquer en fait quelque chose, construire quelque chose qui soit économique. Donc, ce traité de Rome, il crée un grand marché commun économique, qui sera effectif véritablement qu'à partir de 1969 et la levée des dernières barrières douanières entre les 6 pays. C'est aussi le début de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, qui engage la modernisation de l'agriculture et des modes de production agricole par des subventions et un contrôle des prix, avec l'objectif donc d'être indépendant alimentairement des États-Unis d'Amérique. une politique commune enfin des infrastructures nationales. On a peine à le croire, mais à l'époque, quand on construisait une route ou une autoroute, on ne pensait que, si on était français, on ne pensait que français, si on était allemand, on ne pensait qu'allemand, si on était belge, on ne pensait que belge, et on n'avait pas véritablement une vision européenne des choses. Donc à partir de 1957, à chaque fois qu'on construit quelque chose, on doit avoir une infrastructure, on doit avoir une vision européenne de cette infrastructure. Donc entre 1957 et 1970, eh bien nous sommes en pleine Trente Glorieuse et le commerce entre les six pays eh bien est multiplié par 6. Ce qui engage notamment un pays qui avait refusé jusqu'alors de rentrer dans la communauté économique européenne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, de toquer à la porte de cet ensemble. Pourquoi ? Eh bien parce que les Anglais se sont rendus compte qu'en fait, leur relation privilégiée avec le Commonwealth, c'est pas était à sa fin, étant donné que la plupart des pays des anciennes colonies britanniques demandaient elles aussi leur indépendance, et que ben, juste à côté de leur porte, non loin de Douvres, eh bien, se constituait un espace économique le plus important pour eux, et bien plus important pour eux que leurs relations économiques avec soit les États-Unis, soit leurs anciennes colonies. Donc De Gaulle ne refuse pas l'Europe. Hein. On le lit souvent, mais c'est pas véritablement vrai. Il refuse en fait que la France soit mise en minorité dans les décisions européennes. C'est pour ça qu'il refuse la fin de l'unanimité des décisions entre les six pays, et que quand les cinq autres pays l'obligent, eh bien lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ce qu'on appelle la chaise vide. Puisque vous voulez pas m'écouter, ben moi je pars, et donc vous pouvez prendre aucune décision. Donc il contribue cependant à l'amitié franco-allemande par le traité de l'Élysée, je rappelle, le 22 janvier 1963. Il contribue aussi au rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne pour ce qui concerne, par exemple, le Concorde, dont il donne le nom. Il contribue aussi au rapprochement franco-britannique, puis franco-allemand pour le programme Airbus à partir de 1966. Enfin bref, il veut une Europe, mais attention, une Europe sans domination américaine. Et c'est bien pour ça qu'il refusera par deux fois en 1963 et en 1969 l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté économique européenne. Je rappelle à ce titre qu'en 1966, il quitte le commandement intégré de l'OTAN, après avoir fait justement pour ce désir d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc, la Grande-Bretagne et l'air et le Danemark entreront en 1963 avec l'accord du président Pompidou qui succède à De Gaulle en 1969. La deuxième partie, c'est le renforcement de l'Europe de 1974 à 2005. Donc ici, nous avons des contextes différents et très évolutifs. Donc je n'en noterai que deux. Donc le premier, c'est la crise économique qui met fin à partir de 1974 à ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses et qui contribue donc à un chômage de masse endémique. La deuxième, c'est la guerre froide qui s'achève peu à peu en 1989 et voit l'hyperpuissance américaine régner sur la mondialisation. Donc, de 1974 à 1986, nous avons une période d'accélération de la politique de construction européenne. Alors, pourquoi ? La première raison, c'est le choc pétrolier de 1974 et 1979. Ces deux chocs pétroliers ont montré la fragilité économique des États européens et que la compétition monétaire entre eux n'apporte rien aux questions de chômage de masse de chacun des pays membres. Donc la CE a considéré en fait qu'il valait mieux en fait renforcer la coopération et les politiques communes européennes plutôt que de se diviser et de se faire des concurrences notamment monétaires. La CE, par la même occasion, s'est élargie au sud par les adhésions de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal qui viennent de sortir des dictatures et sont devenus des pays démocratiques, donc dignes à ce moment-là de rentrer dans la communauté économique européenne. Je rappelle à ce sujet que ces pays étaient des pays véritablement du tiers-monde, avant... avant de rentrer dans la communauté économique européenne et que ce sont les subventions européennes qui ont permis le décollage structurant et définitif de ces pays dans des politiques de développement économique et social de leur population. En 1986, les 12 pays, donc, puisque maintenant ils sont 12, signent ce qu'on appelle l'acte unique pour donner plus de pouvoir aux institutions européennes. Notamment au Parlement européen, élu au suffrage universel depuis 1979, et qui va avoir un pouvoir législatif renforcé. En 1992, le traité de Maastricht fonde l'Union européenne qui remplace définitivement la Communauté économique européenne. Alors là, je vais faire une petite pause parce que c'est là que commence en fait le programme des terminales S. Alors, il y a deux choses essentielles à retenir. Un, ce traité de Maastricht, c'est un renforcement politique de l'Union européenne. Pourquoi ? Mais parce que les pays européens ont créé une monnaie européenne. Ils ont créé aussi des institutions de diplomatie commune, notamment pour la défense. La création d'une citoyenneté européenne est aussi déterminante dans le traité de Maastricht. En effet, le citoyen français ou le citoyen allemand ou le citoyen belge, enfin bref, tous les citoyens nationaux deviennent aussi citoyens européens. Alors, je rappelle un petit fait, c'est-à-dire qu'un citoyen, par exemple, français, peut vivre en Italie et voter pour des élections locales ou pour un président ou pour le Parlement européen. Attention, il ne peut pas élire le député ou un sénateur. Hein. On reste quand même dans des choses qui sont encore limitées, mais qui sont un premier pas. Ce qui est aussi important de savoir à partir du traité de Maastricht, c'est qu'on a aussi réfléchi à des diplômes communs, avec que vous fassiez un diplôme professionnel ou que vous fassiez un diplôme universitaire, plus général ou technologique, peu importe, votre diplôme est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Nonobstant quelques spécialités, par exemple comme médecine, par exemple, où on a du mal, par exemple avec des étudiants qui ont fait des études de médecine en Roumanie, à les intégrer dans des protocoles français. Vous avez un programme qui s'appelle Erasmus, qui est le programme des étudiants, mais pas seulement des étudiants. Vous avez aussi des Erasmus pour les formations professionnelles. Hein. Ceux qui font des bacs pro ont droit aussi de faire Erasmus. Donc vous avez un abandon du contrôle des frontières entre les États membres. Ça veut dire que là, maintenant, à partir de 1992, chose qui n'existait pas avant, vous avez une citoyenneté européenne avec des possibilités de vivre dans un pays de l'Union européenne de votre choix. Alors qu'avant, quand vous étiez, par exemple, infirmière en Allemagne et que vous alliez vivre en France, bah, vous n'aviez pas le droit d'exercer en France puisque votre diplôme n'était pas valable. Donc, vous traversiez le Rhin et vous n'aviez pas le droit d'exercer le métier que vous aviez de l'autre côté de la frontière. En 1995, on a un premier élargissement, c'est-à-dire celui de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche, qui étaient des pays neutres jusqu'à présent et qui, du fait de la fin de la guerre froide, eh bien, se disent bah, « Tiens, c'est très bien de rentrer dans l'Union européenne » et donc ça fait l'Europe des 15. Cette entité, à ce moment-là, en 1995, forme donc la première puissance économique au monde. À ce moment-là, hein. Le succès de la CE et le poids de cette entité engagent d'autres continents à copier le modèle européen dans sa dimension économique et non politique, je le répète. Ainsi, les États-Unis ont accepté la proposition mexicaine de former une alliance de libre-échange nord-américaine avec le Canada, qu'on appelle l'ALENA. En Amérique du Sud, vous avez des pays qui ne s'entendaient pas véritablement, et pas seulement pour une question linguistique, mais l'Argentine, le Brésil, qui décident de créer le Mercosur, c'est-à-dire cette alliance économique entre les pays d'Amérique latine, qui est la seule institution capable de peser dans les décisions de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, par exemple, pour notamment des allègements des taxes douanières des produits agricoles sud-américains, notamment sur les marchés nord-américains et européens. Ce constat me permet d'aborder maintenant la troisième partie, c'est-à-dire de 2005 à 2020, que j'intitulerai « Un géant économique et un nain politique ». Donc nous avons ici des contextes nouveaux. Le premier, en 2005, par référendum, les Français et les Néerlandais ont refusé la Constitution européenne par référendum. Ils la jugeaient globalement trop complexe et insuffisamment sociale et protectrice. Deuxièmement, la montée des crises sociales augmente le ressentiment vis-à-vis de l'Europe, d'autant plus que les classes politiques d'à peu près tous les pays rejettent toujours les fautes sur l'Europe, allant jusqu'à même proposer le départ de l'Union européenne et qui a amené en fait au Brexit anglais. Donc j'aborderai cette partie en deux parties. Donc la première, c'est une union inachevée et complexe. L'Union européenne est inachevée, notamment depuis le fait que la Constitution a été refusée et qu'aucune autre Constitution n'est venue la remplacer. Et le traité de Lisbonne n'est pas une Constitution. Donc, une union inachevée et complexe, ça veut dire quoi ? Eh bien, nous avons quatre capitales politiques de l'Union européenne. Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, Francfort. Les pays européens ne se sont pas mis d'accord pour avoir une capitale unique. Ils ne se sont pas mis non plus d'accord pour avoir une politique unique. Je vais expliquer maintenant brièvement comment se passe une décision européenne. Le schéma de prise de décision est donc complexe. Nous avons en haut de la pyramide un Conseil européen, 27 chefs d'État réunis par trimestre, qui décident des buts et des priorités de l'Union européenne. C'est-à-dire que les 27 chefs d'État doivent se mettre d'accord. À l'unanimité dans un premier temps et à la majorité dans un second temps. Ensuite, on a des réunions des ministres des 27 pays ou 26 pays maintenant de l'Union européenne. Ces conseils de ministres fixent aussi les buts et les priorités et les modalités par lesquelles ils peuvent se mettre d'accord. La Commission européenne, qui est composée de 26 membres, un par pays, organise et propose des textes et directives en fonction de ce que leur ont demandé le Conseil européen. Et à partir de ce moment-là, ces décisions et cette mise en œuvre et ce contrôle est acté par le Parlement européen qui discute et vote de ces textes législatifs. Vous voyez, on a quand même une complexité, c'est-à-dire que quand on a une crise comme une crise migratoire, quand on a par exemple une crise sanitaire comme aujourd'hui, eh bien, il faut d'abord que les 27 pays se mettent d'accord, se réunissent pour prendre une décision. On n'est pas ici avec une organisation à l'américaine, c'est-à-dire fédérale, avec un président des États-Unis d'Europe et un congrès qui déciderait. Donc, et chaque pays, je répète, reste maître de ses destinées dans l'Union européenne. Donc, j'ai affaire aussi à une inexistence diplomatique. La souveraineté des pays membres reste entière. Nous sommes responsables de nos armées, nous sommes responsables de notre système scolaire, nous sommes responsables de notre système de santé. La seule chose sur laquelle on est obligé de se mettre d'accord, c'est sur l'euro. Encore pas tous les pays. Je rappelle que certains pays ne l'ont pas. Le Danemark ne l'a pas, la Suède non plus, la Croatie non plus. La France a donc une diplomatie propre, tout comme l'Allemagne a une diplomatie propre et des intérêts propres aussi. Je rappelle aussi que il n'y a toujours pas d'armée européenne, que l'armée européenne est chapeautée par l'OTAN, qui était quand même une organisation qui est dirigée quand même par les États-Unis d'Amérique. Il y a une coopération pour la police, pour le financement de Frontex, c'est-à-dire de nos gardes-côtes et nos gardes-frontières européens, mais sans plus. En fait, les clivages du Congrès de la Haye n'ont pas été tranchés. Faut-il être fédéral ? Ben, nous n'avons pas d'Europe fédérale à l'heure actuelle. Nous avons en fait plus une politique confédérale où 26 pays doivent se mettre d'accord et les intérêts ne sont pas obligatoirement d'accord, que l'on soit au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest de cet espace-là. Donc les États-Unis d'Europe sont, comme la démocratie, une idée neuve à construire encore. Le nationalisme, c'est la guerre, disait François Mitterrand, mais se pose aussi la question d'une identité européenne. Qu'est-ce que ça veut dire être européen aujourd'hui ? La solidarité s'exerce aujourd'hui entre pays européens. Nous avons, par exemple, des échanges de masques. Vous avez des hôpitaux frontaliers en Allemagne qui acceptent nos malades d'Alsace et de Lorraine. Cette Europe, en fait, elle est peut-être imparfaite, mais c'était une nouvelle génération de poursuivre cette construction européenne et de ne jamais oublier eh bien, que cette institution européenne, l'Union européenne, est la seule garantie de la paix entre les pays européens. J'espère que cette émission vous sera utile. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis un bon confinement malgré tout. Et je vous retrouve demain pour parler de la gouvernance française depuis 1945.